franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, un peu de pédagogie sur la météo et le climat. Et pour commencer, voici traduit un tweet signé Donald Trump, publié vendredi sur son compte.
Dans l'est du pays, on pourrait avoir un record de froid pour le réveillon du jour de l'an. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique pour lequel notre pays, mais pas les autres pays, s'apprêtait à payer des milliers de milliards de dollars. Couvrez-vous.
Voilà, et c'était donc Donald Trump qui avait écrit la semaine dernière ce tweet. Et parmi les nombreux internautes indignés justement par ce message du président américain, la chaîne Météo Weather Channel qui a aussitôt réagi en rappelant qu'il y avait une différence de taille entre le climat et la météo. Alors quelles sont ces différences? Il est bon de faire le point, Agnès, avec notre invité.
Robert Votard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace et directeur de recherche au CNRS. Que vous inspire pour commencer ce tweet du président américain Donald Trump?
Eh bien, il m'inspire un raccourci de la part d'un climato-sceptique. En effet, c'est pas parce que on a un réchauffement climatique, c'est pas parce qu'on a une vague de froid que cela remet en cause le réchauffement climatique. Hein. Les vagues de froid sont des événements individuels. Le climat est l'ensemble de ces événements, la moyenne, et c'est cette moyenne qui se déplace progressivement.
Donc c'est pas du tout incompatible. Est-ce qu'on peut justement bien repréciser ces notions de climat et de météo?
Oui, alors le climat, en fait, c'est l'ensemble, c'est la moyenne de la météorologie, en quelque sorte. C'est l'ensemble de tous les événements qui se produisent sur plusieurs décennies. Donc il est normal d'avoir pour un climat donné des situations normales et aussi des situations extrêmes comme les vagues de froid et les vagues de chaleur. Alors c'est ça qui fait toute la différence entre la météo qui est instantanée, on parle de la météo du jour, mais on parle pas du climat du jour, on parle du climat des 30 dernières années ou des 30 prochaines années.
Robert Votard, justement, est-ce que cette confusion faite peut-être volontairement d'ailleurs par Donald Trump, ça n'est pas le reflet d'une confusion, en revanche, que beaucoup font d'ailleurs entre le climat et la météo?
Oui, mais je pense qu'elle révèle surtout une volonté de mettre en avant un événement particulier. Alors que, vous voyez, les vagues de froid, on en parle finalement très peu, il y en a moins qu'avant, c'est tout à fait clair. Alors que des extrêmes de chaleur, même des records, on a eu une multiplication de records et je n'ai jamais entendu Donald Trump parler de tous ces records de chaleur qui ont été battus ces dernières années.
Mmh. Donc il y a une différence entre climat et météo, mais il y a aussi des liens, des corrélations. Et vous avez, je crois, une image pour expliquer la façon dont le climat, en particulier le réchauffement climatique, influe la météo.
Oui, tout à fait. On peut comparer le climat un petit peu à un dé et la météo à une face de ce dé. Hein. Donc le dé, on le jette, on tombe sur un nombre. Alors on peut imaginer par exemple que le 1, c'est une vague de froid, le 6, une vague de chaleur, et puis le 3, le 4, des journées normales. Alors le climat normal, il y a autant de 3, de 1 que de 6, mais avec le changement climatique, ce qui se passe, c'est que la probabilité de tirer un 6 est beaucoup plus forte, et la probabilité de trouver un 1, de tomber sur un 1, est beaucoup plus faible. Donc on a des vagues de chaleur qui ont une fréquence qui va augmenter, alors que les vagues de froid ont une fréquence qui va diminuer sans toutefois disparaître. Hein. On aura toujours des vagues de froid.
Donc le réchauffement climatique favorise les épisodes extrêmes. C'est un petit peu ce qu'on a vu au cours de l'année écoulée, là, 2017.
Ah oui, tout à fait. L'année 2017 a été caractérisée, en tout cas en France, dans le monde par bien d'autres événements, mais en France, ce qui a été tout à fait marquant, et même dans l'Europe, c'est l'été record de chaleur sur l'Europe du Sud. On a estimé que ce type d'événement, donc l'été qu'on a vécu, avait en fait à la fin du XXe siècle, hein, donc une probabilité 10 fois plus faible de se produire qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un événement qu'on attend à peu près tous les 10 ans, alors que c'était un événement qu'on attendait environ tous les 100 ans, les siècles derniers. Et dans le futur, ce type d'été qu'on a eu particulièrement sur les régions méditerranéennes, avec la grande sécheresse qui a suivi, et ce type d'été deviendra la normale au milieu du siècle.
Robert Votard, les trois dernières années, hein, 2015, 2016, 2017, on sait que ce sont les trois années les plus chaudes jamais enregistrées sur les relevés météo depuis le 19e siècle.
Oui, au niveau global. Donc là encore, on est à une échelle supplémentaire. On n'est plus à l'échelle d'une ville ou d'un pays. Mais au niveau global, les températures les plus fortes ont été celles de l'année 2016, ensuite 2015 et très probablement 2017 arrivera en troisième.
Et alors qu'en 2017, il n'y a pas eu le phénomène de sécheresse El Niño, hein ?
Voilà, alors effectivement, 2015 et 2016 ont été marqués par le grand événement El Niño, qui est un événement qui se produit sur l'océan Pacifique, et l'océan Pacifique est énorme sur la planète, hein. Donc il marque beaucoup la température globale. En 2017, effectivement, on n'a plus d'El Niño, mais on se retrouve quand même avec une année parmi les plus chaudes. Et on a effectivement l'impression qu'on a en quelque sorte passé une marche d'escalier montante en 2015 avec cet effet El Niño. Bon, cela ne veut pas dire que l'année 2018 ou d'autres années qui suivent auront des températures encore plus chaudes. Ça peut fluctuer, bien sûr.
Mmh. Donc on a bien compris que météo et climat étaient différents, que le climat pouvait avoir des effets sur la météo. Et est-ce qu'inversement, la météo a elle aussi des effets sur les variations climatiques ?
Alors la météo, c'est ce qui constitue en quelque sorte les variations climatiques. Hein. Alors ce qu'on peut noter dans ces variations climatiques, ce qui va être très important pour pas mal de choses, c'est en particulier pour l'agriculture, c'est la sécheresse, c'est l'eau, le cycle de l'eau. Et on sait que ce cycle de l'eau, avec le changement climatique, doit être accéléré. C'est-à-dire que on évapore plus et à la fois on précipite plus. Il y a plus de pluie et plus d'évaporation. Donc ça exacerbe en quelque sorte d'une part les sécheresses et d'autre part les fortes précipitations.
Robert Votard, pour terminer, est-ce qu'on pourrait imaginer des prévisions climatiques aussi précises que des bulletins météo avec des cartes de répartition géographique sur le long terme ? Ou est-ce qu'on en est bien incapable aujourd'hui, vu la complexité des critères à prendre en compte ?
Alors, c'est vraiment une très bonne question. C'est au cœur de la recherche. Et ce qu'on essaye, évidemment, c'est pas de prévoir la météo, encore une fois, pour 2050 ou 2100, mais bien le climat, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes, les moyennes, comment vont être les plus extrêmes, comment vont être les sécheresses en général, mais sans prévoir un événement individuel en été 2050. Et effectivement, avec les modèles de climat actuels, on arrive à reproduire très bien les variations passées. Et on espère donc que les projections qu'on fait pour la fin du siècle sont exactes. Mais ces projections, elles vont dépendre aussi énormément de ce que nous allons faire en termes de mesures pour lutter contre le changement climatique, puisque donc on est obligé de faire une hypothèse de ce que l'homme va faire pour l'inclure dans nos prévisions.
Merci beaucoup Robert Votard pour justement ces précisions là aussi et ces nuances d'importance entre la météo et le climat, alors que donc sévit un épisode de grand froid aux États-Unis et au Canada un phénomène généralisé de réchauffement climatique, on l'a bien compris. Merci beaucoup à vous et puis Agnès, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, environ 386 000 bébés ont vu le jour le 1er janvier et plus de la moitié de ces naissances ont eu lieu dans 9 pays selon l'UNICEF. Parmi les pays où on enregistre le plus grand nombre de naissances, il y a l'Inde avec plus de 69 000 nouveaux cas, la Chine, le Nigeria ou le Pakistan avec près de 15 000 naissances estimées au 1er janvier. La France, quant à elle, devrait compter 2080 bébés en plus et garder son titre de championne de la fécondité au sein de l'Union européenne. Poussée de fièvre toujours dans notre notre pays, l'épidémie de grippe s'est étendue à toutes les régions sauf à la Corse. Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France avec 500 cas pour 100 000 habitants, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Bretagne. Ce sont les personnes âgées qui sont surtout atteintes. Plus de la moitié de ces malades ont plus de 65 ans. À Paris ou dans le sud de la France, les services d'urgence sont quant à eux débordés par les consultations pour des syndromes grippaux, d'autant qu'ils doivent gérer aussi l'épidémie de gastro-entérite. Et puis la NASA se lance dans le voyage interstellaire. L'agence spatiale américaine souhaite envoyer une sonde vers une exoplanète si la destination n'est pas encore arrêtée. Le système Alpha Centauri semble être le candidat idéal et pour une raison simple. Ce système planétaire est distant de 4 années-lumière seulement et donc le plus proche de nous, façon de parler évidemment. Il faudrait une cinquantaine d'années pour y parvenir en se déplaçant à seulement 10% de la vitesse de la lumière. Reste à développer évidemment un vaisseau capable de se déplacer en toute sûreté et assez rapidement dans l'espace interstellaire. Le départ serait prévu pour 2069 à l'occasion des 100 ans de la mission Apollo.